France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's in the house.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Un jour dans le monde, un jour au Canada ce soir.
On subventionne le Canada à hauteur de 200 milliards tous les ans. On n'a pas à faire ça. Pour résoudre ce problème, le Canada devrait devenir notre 51e État. Le Canada aurait fière allure en tant que notre 51e État.
Voilà, vous avez reconnu la voix et le style Trump. Le président américain, avec ses menaces d'annexion et sa guerre douanière, a percuté la campagne des élections fédérales anticipées et changé la donne. Les 29 millions d'électeurs canadiens se rendront aux urnes lundi prochain, mais le vote anticipé a déjà commencé et la participation s'annonce forte. Elle a déjà progressé d'un quart par rapport aux législatives de 2021. Et les Canadiens se passionnent pour cette campagne. Les deux grands débats télé ont fait des taux d'audience records. Le nouveau Premier ministre et chef du Parti libéral Mark Carney est donné favori face au candidat conservateur Pierre Poilievre. Les citoyens canadiens font de la résistance, ils découvrent un chauvinisme inédit et le vainqueur sera celui qu'ils pensent être le plus à même de défendre leurs intérêts face à leurs puissants voisins. Bonsoir Alain Roy.
Bonsoir.
Merci d'être parmi nous. Vous êtes écrivain, éditeur et vous venez de publier Le cas Trump aux éditions Éco-Société. Alors, vous montrez dans votre livre à quel point Donald Trump est un obsessionnel. Il a des marottes, les droits de douane, il en avait parlé déjà lors de son premier mandat, sans aller aussi loin. Mais pourquoi le Canada ? Pourquoi donc le Canada ?
Ben, nous sommes le voisin proche. On est un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Trump reluque les ressources naturelles du Canada. Comme je le dis dans le livre, je crois qu'il y a cette espèce de fantasme impérialiste chez lui. Il parle carrément d'annexer le Canada, comme il veut annexer le Groenland aussi.
Et vous le prenez au sérieux, franchement, quand il dit ça?
Au départ, on croyait que c'était une blague, mais ça a été répété tellement de fois, et il a dit lui-même, je vais imposer des droits de douane si élevés au Canada que ça va les forcer à s'annexer pour ne plus avoir ces droits de douane.
En fait, il copie son modèle, McKinley, qui était président des États-Unis entre 1897 et 1901, date à laquelle d'ailleurs il a été assassiné, adepte lui aussi des taxes douanières, qui avait promis de mettre la main sur le Groenland et une partie des richesses du Canada.
Oui, il est dans cette lignée, mais c'est une approche qui est critiquée par la plupart des économistes. Ces tarifs, il y a quelque chose de tout à fait irrationnel.
Les tarifs, c'est un anglicisme.
Oui.
Voilà, les tarifs en anglais, c'est les droits de douane.
C'est ça, il s'appelle lui-même Tariff Man, c'est le surnom qu'il s'est donné. Mais ça ne fait que perturber toutes les chaînes d'approvisionnement. Ça va nuire aux Américains eux-mêmes. Par exemple, au Québec, on leur fournit énormément d'aluminium, mais les Américains en ont besoin. Ils ne peuvent pas la produire eux-mêmes. Ça leur coûterait beaucoup plus cher de le faire et ça leur prendrait beaucoup de temps. Alors, il y a quelque chose de complètement irrationnel dans toutes ces mesures.
Et malgré lui, Donald Trump, finalement, ravive la flamme de la souveraineté nationale au Canada, Alain Roy.
Oui, je crois que les Canadiens, les Québécois en général, ont été très heurtés, fâchés. Là, il y a un mouvement de boycott. Les gens se désabonnent de Netflix, de Disney. Les gens ne veulent plus voyager aux États-Unis. Trump a souvent une vision en tunnel. Il se dit, je vais percevoir des droits de douane et ça va me donner 10%. Mais il y a toutes sortes, ou 30 ou 50, mais il y a toutes sortes d'effets collatéraux, de dommages collatéraux à ces mesures.
Mais vous aviez imaginé une montée, presque, j'allais dire, du nationalisme canadien après les propos de Trump?
Je crois que les Canadiens se sont toujours définis en opposition aux États-Unis quand même, parce que moi je dis souvent que le Canada c'est comme un pays d'Europe en Amérique, parce que on a un peu les mêmes programmes sociaux, un tempérament un peu plus modéré, il y a pas le problème des armes à feu comme aux États-Unis, les soins de santé sont accessibles à tout le monde, donc le Canada est une société très différente des États-Unis et tient à le rester, et c'est pourquoi tous les discours d'annexion du Canada, ça ne passe pas du tout.
Non, ça ne passe pas, effectivement. Voilà ce que lui répondait il y a quelques semaines Mark Carney, à peine installé au poste de Premier ministre, après la démission de Justin Trudeau.
On vit la crise la plus importante de notre vie. Le président Trump fait comme si le Canada n'était pas un vrai pays. Il veut nous briser pour nous posséder. Jamais. Jamais. Avant tout, c'est notre force que veulent les Américains. Ils veulent nos ressources, notre eau, nos terres, notre pays. Jamais. Le Canada, ce n'est pas les États-Unis.
Le Canada, ce n'est pas les États-Unis, c'est une phrase très forte. Est-ce que tout le monde est sur cette ligne-là en ce moment au Canada ?
Très largement. Et c'est ce qui explique le recul de Pierre Poilievre, que beaucoup décrivaient comme une sorte de mini-Trump, un conservateur de droite aux vues assez semblables et qui défend beaucoup les intérêts pétroliers de l'ouest du pays.
Il était plutôt favori dans les sondages avant que Trump commence à parler d'annexion.
Il caracolait en tête avec 20 points d'avance, mais là, parce qu'il y avait une lassitude face à Trudeau, le prédécesseur de Carney.
Et là, il est en retard.
Oui, ça a complètement rebattu les cartes et là, Carney se dirige vers la victoire.
Bon. Et jusqu'au Québec, en fait, les Québécois francophones qui ont toujours cultivé leurs différences se revendiquent canadiens.
Oui. Est-ce que il y a quelque chose aussi d'un peu conjoncturel aussi dans tout ça, parce que bon, Trump est pas éternel. Là, il fait des blagues sur un troisième mandat. Est-ce qu'il va aller jusque là?
Est-ce que vous y croyez, vous, à la lueur de tout ce que vous savez de lui maintenant?
Mais comme je le dis dans mon livre, je crois que Trump est capable de tout. Un des chapitres parle de la dangerosité de Donald Trump. Et j'essaie d'analyser la question parce que c'est souvent ça avec lui. Il fait toutes sortes de déclarations. On se demande est-ce que c'est sérieux, jusqu'où il peut aller. Moi, je pense que s'il était laissé à lui-même, il pourrait aller très loin.
C'est-à-dire?
Mais s'il pouvait, il commanderait à l'armée de prendre le Groenland. Il essaierait de forcer l'annexion du Canada. Ça semble surréaliste d'envisager des choses comme celle-là. Mais il faut toujours distinguer ce que Trump veut et ce que Trump peut. Parce qu'évidemment, il y a tout un entourage autour de lui. Il y a les checks and balances là, aux États-Unis. Dans le premier mandat, il y avait ce qu'on appelait l'axe des adultes qui lui résistaient. Mais maintenant, il s'est entouré.
C'est-à-dire, on disait, il y a un adulte dans la pièce.
Oui, c'est ça.
Et on a l'impression que là, il n'y en a plus.
Non, il a engagé des gens aux compétences douteuses dont la principale qualité était leur loyauté envers lui. Et c'est ce qui donne, je crois, ce caractère complètement chaotique là, de ces politiques de droit de douane. On avance, on recule et il y a quelque chose qui semble improvisé et irrationnel dans tout ça.
Et justement, les droits de douane, lors du fameux jour de la libération, il avait appelé ça comme ça quand il a annoncé ses droits de douane à l'ensemble du reste du monde, on va dire, c'est 25% avec le Canada au prétexte que votre pays doit quelque chose aux États-Unis. Sur la manière, et là vous le dites dans votre livre, Alain Roy, Donald Trump aime manier l'intimidation. Il avait d'ailleurs commencé dès la cour d'école.
C'est ça, quand on dit que Donald Trump est un intimidateur, c'est pas une métaphore. Quand il était petit, c'était celui qui tapait sur les plus jeunes dans la cour d'école. Et son père a dû l'envoyer dans une académie militaire, qui était en fait une école de réforme, durant toute son adolescence. Donc, une académie à une heure de New York, où il vivait. Donc, Trump a grandi comme ça. Et je crois que toute sa pratique dans le milieu des affaires, c'est une sorte de demi-sublimation, si on peut dire, de toutes ces pulsions agressives qu'il avait comme intimidateur. Donc, dans sa façon de faire des affaires, ce fameux art of the deal dont il se réclame, c'est surtout, en fait...
Alors que c'est pas un bon dealer du tout, en fait.
C'est son art du deal, en fait, c'est un art de l'arnaque, c'est un art de l'escroquerie, et c'est pourquoi...
Oui, mais d'une certaine manière, ça marche aussi, l'intimidation, parce que tout le monde essaie de négocier quelque chose avec lui en ce moment.
Mais oui et non, parce que comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a toujours des dommages collatéraux et je pense qu'il va abîmer les relations des États-Unis avec ses partenaires à long terme. Ce qu'on dit souvent, c'est que Trump, c'est quelqu'un qui a une vision des deals à court terme, mais il ne comprend pas qu'il y a des situations où le partenaire, c'est une relation à long terme. Et si on brise la relation de confiance, d'ailleurs, c'est ce que Carney disait récemment, que la relation de confiance entre le Canada et les États-Unis était brisée. Donc, ce sont quand même des paroles assez fortes.
Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans la population?
Oui, maintenant, c'est très mal vu d'aller simplement en vacances aux États-Unis. Quand on fait le marché, on évite les produits américains, on boit le jus de pomme plutôt que le jus d'orange de la Floride.
Mais ce n'est pas anecdotique, je veux dire, il y a beaucoup de Canadiens qui le font vraiment, ça?
Oui, tout à fait.
Et votre pays, c'est une façon de faire de la résistance, on va dire, à Trump. L'hymne national, on l'a entendu enflammer les gradins à Montréal. En deux mois, le nombre de ceux qui se disaient fiers d'être Canadiens a grimpé de 13 points pour atteindre 58%. Est-ce que vous auriez pu imaginer ça il y a trois mois?
Au Québec, vous voulez dire?
Oui, au Québec. Oui. Puisque vous êtes Québécois.
Mm-hmm. Oui, c'est sûr qu'il y a eu cet effet de ralliement, de résistance. Beaucoup de Québécois se disent ça n'est pas le temps maintenant de parler de souveraineté parce qu'il faut se réunir et on va être plus fort pour résister à Trump. Il y a cet effet, oui.
Mm-hmm. Revenons-en aux élections fédérales lundi prochain. Entre Mark Carney, l'ancien patron de la Banque centrale du Canada, et le conservateur Pierre Poilievre, qui est une figure politique depuis une vingtaine d'années là-bas, qui vous paraît le plus crédible face à ce nouveau défi qui s'appelle Trump?
Ben, comme la majorité de la population canadienne, je dirais Carney, oui.
Carney, pour quelle raison?
Ben, à cause
de ses
expériences dans le milieu des affaires, ou comme gouverneur de la Banque du Canada, mais aussi de la Banque d'Angleterre. Alors que Poilievre, c'est un politicien de carrière qui n'a pas eu... Et il y a quelque chose chez lui aussi, sur le plan idéologique, qui divise quand même.
Marc Carney, on l'entendait tout à l'heure dans l'extrait qu'on a diffusé, dire « Nous faisons face à la plus grave crise de notre génération ». Est-ce que pour vous, c'est un propos de campagne ou c'est une réalité?
Un peu des deux. Parce que c'est sûr que les libéraux utilisent beaucoup cette ligne. C'est un argument qui fait très mal à Poilievre, donc ils ont intérêt à le faire. Mais c'est sûr que Trump, on ne peut pas le prendre à la légère non plus. Je pense qu'il faut rester ferme parce qu'il essaie d'intimider beaucoup de partenaires, beaucoup de pays. Et moi, je crois qu'il ne faut absolument pas céder à son chantage. Il faut faire comme l'Université Harvard a fait récemment. Il faut se tenir debout face à lui. Parce qu'avec un intimidateur comme lui, comme j'explique dans le livre, on ne peut que perdre si on... C'est pas possible de négocier avec une personne comme lui. En fait.
D'ailleurs, vous le surnommez le Poutine de l'Amérique. C'est son modèle, Vladimir Poutine. C'est son modèle impérialiste. Est-ce que votre parallèle va jusqu'à une vraie crainte d'envahissement ou, une fois de plus, c'est de l'intimidation?
Mais c'est la question qu'on se pose. Donc, c'est difficile de vous répondre de façon très précise, mais c'est comme si Trump ouvrait son jeu autoritaire, une carte à la fois, jour après jour... Il y a toutes sortes de choses très troublantes quand il veut envoyer un de ses généraux en cour martiale pour qu'il aille sur la chaise électrique. C'est des choses très perturbantes d'entendre ces choses-là, de la façon dont il attaque les universités américaines. À chaque semaine, il y a de nouvelles choses, de la façon dont il expulse des migrants. Maintenant, les gens me disent « Alain, ne te présente pas à la frontière américaine ». Tu pourrais subir un très mauvais quart d'heure. Ils vont vérifier mes médias sociaux et tout. Y a des gens qui sont des jeunes filles au père sans histoire qui se font emprisonner pendant une semaine pour des peccadilles. Donc, on commence à craindre des gens, ceux qu'on appelle les snowbirds au Canada, donc les oiseaux migrateurs qui passent l'hiver en Floride. On leur demande maintenant toutes sortes de papiers. S'ils les ont pas, il y a des tracasseries de toutes sortes. Donc, même des gens comme ça se craignent d'être embêtés par les autorités américaines parce qu'aux frontières, on examine le contenu des téléphones, les ordinateurs. Récemment, un scientifique s'est fait confisquer son ordinateur simplement parce qu'il avait affiché des positions anti-Trump dans ses réseaux. Donc, il y a vraiment un climat de méfiance et de crainte qui s'installe.
Trump a ravivé le débat, finalement, autour de la question suivante. C'est quoi être Canadien aujourd'hui? Alors, je vous la pose, cette question.
Je disais tout à l'heure que le Canada, c'est un peu un pays d'Europe en Amérique. J'avais participé il y a plusieurs années à un colloque international sur l'Europe et je disais ça déjà à l'époque parce que le Canada a été fondé par des descendants de France et de Grande-Bretagne. Le Québec a souvent pris modèle pour ses politiques sur les pays scandinaves. Donc, il y a une sorte de façon de concevoir la société, un art de vivre qui est vraiment, qui a des racines européennes. Et on ne se reconnaît pas du tout dans la société très violente, polarisée, centrée sur l'individu et l'argent. Il y a quelque chose de foncièrement différent. Donc, c'est pourquoi je pense que, comme Québécois et Canadiens, on tient à incarner ces valeurs.
Merci. Merci Alain Roy.
Merci à vous pour
d'être passé par le studio de France Inter. Je rappelle le titre de votre livre, Le cas Trump, publié aux éditions Éco-Société. La suite, c'est une étape en Albanie dans le reportage d'Un jour dans le monde. Nous visiterons la maison de l'ancien dictateur Enver Hoxha, ouverte au public. Vos rendez-vous jusqu'à 19h, Corinne Audouin sous les radars.
On partira aux États-Unis. C'est peut-être bientôt la fin des diners, ces restaurants rendus célèbres par le cinéma américain.
Claude Guibal pour Le Monde à 18h50. Bonsoir.
Bonsoir. Nous, on va voir pourquoi la visite d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien révèle des enjeux stratégiques absolument colossaux.
Et le cinéma en VO comme tous les mercredis. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir. Je vous parle d'un film d'animation le plus rentable de tous les temps. 2 milliards de dollars au box-office. Il est chinois et il sort en France ce mercredi.
Et en attendant d'aller en Chine, une escale par le delta du Mississippi avec la soul rétro de Deron Jones et son groupe The Indications. Been So Long, extrait de leur futur album annoncé pour fin juin, vient d'entrer dans la playlist d'Inter. Nous sommes en Albanie qui cherche à se rapprocher de l'Europe et c'est le reportage d'Un jour dans le monde ce soir. Le petit pays des Balkans au nord-ouest de la Grèce s'applique à cocher toutes les cases. Ses dirigeants sont alignés sur la stratégie géopolitique de l'Union et affichent leur volonté de réforme. Ils s'appuient sur une société ouverte, l'une des plus europhiles du continent. Certains évoquent même une intégration possible d'ici 2030. Que de chemin parcouru pour ce qui était encore il y a 35 ans la Corée du Nord de l'Europe, un pays fermé, gouverné gouverné pendant un demi-siècle par un régime stalinien. Symbole de ce passage de la répression à l'ouverture, la villa de l'ancien dictateur Enver Hoxha vient d'être convertie en résidence d'artistes et ouverte au public. On suit Louis Seyé à Tirana pour une visite guidée.
Avec son jardin bien entretenu et son architecture italienne des années 30, c'est une maison qui surprend dans le bloc, le quartier branché de Tirana. La Villa Denver, comme l'appellent les Albanais, ouvre ses portes, mais les Tiranais hésitent encore à pénétrer dans ce lieu longtemps resté interdit et associé à la répression. À 35 ans, l'artiste Armando Duccellari a séjourné 3 mois dans l'ancienne demeure du dictateur Enver Hoxha.
Quand on était adolescent, avec mes amis, on passait tous les jours devant cette villa. Et elle était pour nous cette chose immense, ce monument inaccessible. Aujourd'hui, le fait que je puisse non seulement rentrer dedans, mais aussi y dormir et y travailler, bien sûr, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer.
Depuis sa villa labyrinthique avec piscine et cinéma privé, le dirigeant paranoïaque a imposé une censure féroce et banni l'art contemporain. Peindre à la manière de Picasso ou chanter comme les Beatles était passible de plusieurs années de camp et de travail à la mine. Aujourd'hui, la fondation Art Explora et l'État albanais ont décidé de transformer la villa en lieu culturel et inviter des artistes pour des projets de recherche. La directrice artistique Nita Deda.
L'un des buts est de faire de ce lieu qui a symbolisé jusqu'à aujourd'hui l'isolement et un passé sombre, un lieu pour la liberté de penser. C'est un choix qui montre où veut aller l'Albanie dans le futur, être un pays où existent des lieux de création et d'expressions artistiques.
Longtemps victime de stéréotypes, le petit pays des Balkans est devenu en quelques années une destination touristique à la mode. Beaucoup de visiteurs cherchent à en savoir plus sur les réalités de la dictature. Mais contrairement à d'autres pays du bloc de l'Est, l'Albanie peine à faire face à un passé encore tabou. Pour l'historien Elidor Muhili, le destin de la villa illustre ce difficile travail de mémoire.
Tout le quartier du bloc où vivait l'élite du régime s'est transformé depuis 1991. Des restaurants, des bars ont été construits, les prix de l'immobilier s'envolent. Mais avec cette villa, les autorités ne savaient pas quoi faire. Selon moi, c'est assez symbolique de la façon dont l'Albanie a travaillé et n'a pas travaillé sur la dictature et ce passé. Plein de choses n'ont pas encore été faites. Par exemple, des musées existent, mais il manque le narratif. Et nous sommes face à une contradiction. L'État albanais veut plus de touristes, de flux, de visiteurs, mais eux ont des questions. Ils cherchent un discours et des explications. Il faut faire bien plus.
Si le pays affiche aujourd'hui son dynamisme et son ouverture, les cicatrices du passé divisent toujours une société qui balance entre nostalgie, ressentiment et indifférence. Héritière de l'élite communiste, la classe dirigeante rechigne à faire toute la lumière sur un régime de terreur qui a envoyé plus de 100 000 personnes dans des camps sordides. Au sous-sol de la villa, l'artiste Gerta Jaferai s'est plongée dans les interminables tunnels du dictateur paranoïaque. Des symboles d'une mémoire refoulée.
Après 35 ans de démocratie, on peut voir qu'il y a toujours des éléments de cette période que l'on passe sous silence et qui sont enfouis dans notre subconscient. Les tunnels en sont une très bonne illustration, c'est ce que m'ont confirmé mes 3 mois de résidence dans la villa. Il a été très difficile d'accéder à ces tunnels et de les ouvrir au public alors qu'ils ne sont plus des secrets d'État. Peut-être que nous ne sommes pas encore prêts à faire face à ce passé.
Un passé complexe et sensible, source d'inspiration pour les artistes albanais et étrangers qui vont se succéder tous les 3 mois dans la villa. Leurs travaux aideront peut-être la société à se libérer des fantômes de la dictature.
Reportage signé Louis Seyé en Albanie. L'actualité passée sous les radars à 18h44 avec Corinne Audouin. Direction le Cachemire indien, touché par une attaque terroriste contre des touristes.
Ça s'est passé lundi dans la ville de Pahalgam, en pleine montagne. Des tireurs munis d'armes automatiques ont ouvert le feu sur des touristes. 26 hommes sont morts, des Indiens et un Népalais. C'est l'attaque la plus meurtrière contre des civils depuis 25 ans au Cachemire. 2 assaillants ont été tués. La ville s'est vidée en quelques heures. La vallée du Cachemire est très belle, dit ce touriste venu de Calcutta, mais la situation est tendue depuis des années. Comme les choses s'étaient améliorées récemment, j'avais décidé de venir. Et depuis leur partition en 1947, en effet, l'Inde et le Pakistan se disputent la souveraineté de tout le Cachemire, qui est majoritairement musulman, dans la partie indienne. La rébellion séparatiste a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes depuis 35 ans. Le gouvernement indien réaffirme sa souveraineté et veut y développer le tourisme. Alors ce qui couve, c'est une nouvelle crise entre l'Inde et le Pakistan, soupçonnée de soutenir en sous-main la rébellion armée. D'ailleurs, l'Inde va fermer son principal poste frontière avec le Pakistan.
On part pour la Corée du Sud où la secte Moon est plus active que jamais.
À en juger par ses mariages de masse le week-end dernier, 1300 couples se sont dit oui en même temps à Gapyeong, à une cinquantaine de kilomètres de Séoul. Voilà, il faut imaginer des centaines de jeunes femmes toutes vêtues de la même robe de mariée blanche, leur mari en smoking. Ils s'unissent sous la supervision de la Sainte Mère, alias Han Hak-ja, la veuve du fondateur Moon Sung-myung. Accusée d'embrigadement sectaire et d'extorsion, l'organisation a été dissoute au Japon, mais elle continue ses activités en Corée du Sud. Ces mariages unissent principalement des Américains, des Coréens et des Japonais pour relancer la natalité et nettoyer tous les péchés. Les femmes japonaises sont ainsi invitées à expier le passé colonial de leur pays en épousant des hommes coréens. Alors malgré ses ennuis judiciaires au Japon, Moon garde le vent en poupe avec 3 millions d'adeptes revendiqués dans le monde, un empire économique tentaculaire dont un journal et une station de ski.
On termine aux États-Unis où un symbole de la culture américaine pourrait disparaître.
Et oui, les diners, ces restaurants immortalisés au cinéma, ces breakfasts géants, la tasse de café remplie à volonté par une serveuse en petit tablier blanc.
We have what appears to me to be a series of victimless crimes.
What about the toe?
What about the fucking toe?
Excuse me, sir. Could you please keep your voices down? This is a family restaurant.
Oh, alors, un extrait de The Big Lebowski des frères Cohen. Alors que se passe-t-il, me demanderez-vous? Eh bien, oui. Le Washington Post, le New York Times et CNN s'accordent sur le constat, l'inflation. Le salaire minimum plombe les comptes, sans compter sur un changement culturel. On reste plus chez soi et on commande à manger. Alors les chaînes Hooters, Red Lobster et Denise ont déposé le bilan. C'est aussi la perte d'un lieu de sociabilité où se croisent des Américains de tous les milieux. Et moi, je demande quand même, où est-ce que l'agent Dale Cooper de la série Twin Peaks va-t-il manger sa tarte aux cerises?
Merci Corinne. Allez, on traverse l'Atlantique et on remonte le temps. Nous voilà dans l'Angleterre des années 80. Siouxsie and the Banshees avaient marqué l'après-punk avec leur rythme presque incantatoire. Spellbound les ensorcelait. Bon début de soirée avec nous sur Inter.
From the cradle bars comes a beckoning voice, the sun spinning. You have no choice.
You have no choice, you hear.
Le Monde à 18h50.
How dare you? World has
changed. Christelle Rebière. Le 18-20.
À direction l'océan Indien ce soir avec vous, Claude, où se trouve Emmanuel Macron, une zone dont on ne mesure pas forcément l'importance.
Et pourtant, Christelle, si je vous dis Juan de Nova, Europa, Bassas da India ou encore les Glorieuses, savez-vous de quoi il s'agit ?
Non.
Il s'agit des îles éparses. Et si je vous dis qu'elles sont situées au milieu du canal du Mozambique, vous voyez de quoi je parle ?
Beaucoup mieux.
Alors, c'est 1600 km de long, 419 km de large. Ce bras de mer qui sépare Madagascar du continent africain était jusqu'à la construction du canal de Suez, une des principales routes maritimes du monde. Il permet de relier en fait l'Europe à l'Asie, en contournant l'Afrique via le Cap de Bonne-Espérance. Et alors que cette voie du canal de Suez est aujourd'hui assez compliquée à prendre, très chère en raison de la dangerosité en mer Rouge, vous savez, la piraterie, les attaques des Houthis du Yémen, eh bien, ce canal du Mozambique est redevenu un des plus gros enjeux stratégiques du monde. Or, devinez quel est le pays qui contrôle aujourd'hui plus de la moitié de ce canal ? Eh bien, c'est la France.
Ah, pourtant, ces îles françaises dont vous parlez, ce sont juste des petits confettis dans l'océan ?
Oui, c'est vrai qu'à l'exception de Mayotte, ces îles dans la région sont pour la plupart minuscules et désertes. Mais ce qui est important, ce n'est pas vraiment leur taille ni leur nombre d'habitants, mais bien les espaces maritimes attenants. Ils permettent à la France de contrôler, grâce à elles, des centaines de milliers de kilomètres d'océan. Et c'est un lieu d'une biodiversité absolument foisonnante. C'est plein de poissons, mais il y a aussi d'immenses, immenses stocks d'hydrocarbures pas encore exploités. Et je ne parle même pas de la possibilité de maintenir là-bas une présence militaire avec des bases.
D'où les convoitises.
Mais des convoitises qui sont vraiment acharnées, à commencer par celle de la Chine, qui veut développer, on le sait, et sécuriser ses nouvelles routes du commerce. Et alors, elle prend pied, la Chine, dans cette région, en investissant massivement sur les côtes, en construisant notamment de nombreux ports. Pour Pékin, cet océan Indien, c'est vraiment vital pour son approvisionnement énergétique. La Chine, elle est en plein affrontement avec les États-Unis qui veulent aussi leur part du gâteau et maintenir leur présence stratégique pour contrer l'influence chinoise. Et cette influence chinoise, il y a aussi un autre pays, l'Inde, hein, la grande rivale régionale, qui essaye de se renforcer du coup dans le coin. Cerise sur le gâteau, il faut rajouter la Russie qui, elle, joue de son poids géopolitique avec les pays de la région en troquant des ressources naturelles ou des emplacements stratégiques contre de l'aide sécuritaire ou des votes aux Nations Unies.
Et la France dans tout ça, finalement ?
La France, vous savez qu'elle a perdu une grande partie de sa puissance et de sa zone d'influence en Afrique de l'Ouest, au Sahel, où la Russie la supplante désormais. Quant à l'Afrique du Nord, il n'y a qu'à regarder la crise en ce moment avec l'Algérie, et c'est à peine mieux au Proche-Orient, où Paris essaye de jouer un rôle, comme on l'a vu avec la visite d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Or, dans cette zone indo-pacifique, le poids de la France, qui est quand même la deuxième puissance maritime mondiale après les États-Unis, le poids de la France, il est aussi en danger, puisque ses possessions françaises sont contestées. Elles sont contestées par Madagascar pour les îles Éparses ou par les Comores pour Mayotte. Madagascar et Mayotte soutenues dans leurs revendications par Moscou. Le risque pour Paris, c'est qu'une hostilité bien entretenue contre la France dans la région se développe au point de lui faire perdre ses îles à l'importance immense, bien au-delà du symbolique.
Merci Claude et à demain.
Moteur. France Inter.
And the Oscar goes to...
Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO avec vous, Corinne Pellissier, c'est le phénomène d'animation qui a battu ces derniers mois tous les records au box-office. Le film le plus rentable jamais réalisé dans le domaine, plus fort que Vice-Versa 2, plus fort que Le Roi Lion. Voici Neja 2, je crois qu'on dit, c'est
Neja.
Ça, sur les écrans ce mercredi, qui nous arrive de Chine. Premier film non hollywoodien à avoir dépassé la barre des 2 milliards de dollars de recettes. Un ovni dont quasiment personne jusqu'ici n'avait jamais entendu parler.
En tout cas en France, le premier volet des aventures de ce petit personnage mi-enfant, mi-démon n'est jamais sorti au cinéma. Et c'est bien dommage car le résultat à l'écran est drôlement ambitieux. Un nouveau film à l'univers visuel très riche, inspiré de la mythologie chinoise, de ce roman du 17e baptisé L'investiture des dieux, autour de la dynastie Ming, des personnages, des créatures au pouvoir extraordinaire, des monstres marins, des enfants tigres, et au milieu, un héros qui se déplace à d'autres cochons, qui avalent aussi un peu comme Obélix Obélix des petites pilules bleues pour augmenter sa force. Voilà, c'est complètement barré. On se croirait dans un manga avec des tortues guerrières, des dragons d'acier qui vont se livrer pendant plus de 2 heures à des combats spectaculaires. Tout ça sur fond de haine, de magie, de vengeance. Tout est beau. Tout est maîtrisé, beaucoup de couleurs, de diversité aussi dans le style des dessins. Plus de 4000 personnes ont travaillé sur ce deuxième volet. Il y a des moyens, ça se voit. Et en termes d'exploitation, eh bien, les 2 milliards de recettes dont on parle, ce n'est qu'un début, nous dit le spécialiste de l'animation chinoise Anton Guzman, journaliste pour le magazine Coyote.
C'est le plus gros effort que l'industrie de l'animation chinoise ait pu faire. Le buzz qu'il fait à l'international, c'est parce qu'il a dépassé ses 2 milliards. Le monde découvre ça avec NESA 2. Le processus, il est engagé depuis 5-10 ans et le premier NESA était déjà significatif comme succès. NESA 3 sortira dans quelques années. Il va avoir un succès similaire, si ce n'est supérieur en Chine, pour peu que la qualité soit au minimum au rendez-vous comme elle l'est sur ce second volet. Le marché sera plus grand, il y aura plus de salles, les gens seront encore plus disponibles en Chine, donc il va probablement dépasser ça. C'est un outil de soft power. Là, il est parmi le top 5 des films les plus rentables de tous les temps. Devant lui, il y a des Avatar, 2 Avengers ensemble et des Titanic. Leur objectif prochain, ce sera en termes économiques pour l'industrie, de conquérir le monde et d'avoir toute la main d'œuvre, toute l'expertise, tous les artisans, tous les animateurs dans des studios locaux. Les résultats, on va les voir très vite. C'est la pente d'émerger d'un iceberg énorme.
Alors, à l'international, les résultats sont plus modestes, Corinne, mais tout aussi prometteurs.
Oui, c'est une distribution orchestrée en Europe par un Français, avec de beaux succès déjà dans les pays où le film est sorti. En Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, où il a passé la barre des 200 000 spectateurs. Ça ne paraît pas énorme, mais il faut rappeler qu'on est quand même sur un marché de niche et que tout l'enjeu est surtout d'installer durablement l'animation chinoise dans le paysage. 100 000 entrées en France, eh bien, ce serait un excellent début, nous dit Cédric Bérel, patron de la société Trinity Cinéasia, qui distribue le film.
Dans la mesure de leurs ambitions, le succès de Ninja 2 ne vient pas de nulle part, ça vient d'un investissement profond dans le cinéma d'animation. Je pense au Royaume des Abysses, par exemple, l'année dernière. Ça fait longtemps qu'on suit le film, parce qu'on avait aussi sorti le premier. L'animation était bien sûr spectaculaire, et ça c'était un des vecteurs du film. Mais surtout, ce qui m'avait intéressé, c'était le personnage. C'est l'enfant rebelle. Moitié démon, moitié humain, qui refuse son destin. Faire un pari sur ce personnage, c'était une idée fraîche, osée. Donc, immédiatement, c'est comment donner à ce film l'ampleur qu'il mérite en termes d'être sur tous les écrans assez rapidement pour vraiment être dans le bain de ce buzz.
Mayfair!
Et avoir sur le plus grand écran possible.
Oui, oh bah j'imagine bien. Donc, Ninja 2, réalisé par le chinois Yu Yang, bien parti, vous nous le dites, hein, Corinne, pour exploser tous les records. On a découvert quelque chose d'assez extraordinaire ce soir.